Vous connaissez l'humoriste Jérémy Demé. En plus, il a fait un best-seller incroyable, La Liste. Vous avez peut-être appris beaucoup de choses sur lui parce que c'est une chose de faire rire, mais c'en est une autre que de toucher avec son témoignage très personnel. Jérémy, merci d'être là.
Merci de m'inviter.
Écoute, je t'ai vu à Denis Lévesque, puis j'ai eu comme un coup de cœur pour ce que tu racontais. Je me suis dit, comment ça fait qu'il n'est jamais venu à mon émission, ce gars-là?
C'est une très bonne question.
Il est vraiment trop trippant. Alors, et là, ça tombait bien parce que tu viens de publier La Suite
oui.
de La Liste. Ça s'appelle Après La Liste, La Suite.
Exact.
Ça se lit très, très bien, où tu parles de plein de choses qui sont... qui font du bien à l'âme quand on les lit. Tu sais, on n'apprend pas forcément grand-chose à part ton histoire personnelle que tu continues nous rappeler des moments où tu t'es senti un peu perdu et que tu avais besoin d'outils. Mais tu fais aussi des réflexions sur plein de choses, sur les regrets, sur la vie en général.
Ouais.
C'est le fun de lire ça, je trouve.
Ben, c'est le fun de dire ça. Puis, tu me dis, on n'apprend pas. Il y a beaucoup de gens qui apprennent, il y a beaucoup de gens que ça rappelle. Mm. Tu sais, je pense qu'on a besoin de rappel dans la vie.
Oui, c'est ça que je voulais dire. Je ne voulais pas dire qu'on n'apprenait rien. Je voulais dire que tu as besoin de te faire rappeler ce qui semble être des évidences, mais qui ne sont peut-être pas tant, finalement.
Mais tu sais, tu parles de regrets. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas évidentes.
Ouais.
J'avais lu une étude, et c'est ça que je partage dans mon livre, d'une dame qui dit qu'elle a interviewé des gens à 85 ans, en demandant quels sont vos 5 plus grands regrets dans la vie. Mais ça, tant que tu n'as pas eu 85 ans, tu peux pas vraiment le savoir. Mm. La seule façon, c'est que tu as eu des parents ou des grands-parents qui te partagent ça. Mais moi, je trouve ça intéressant de savoir ça. Je trouve ça intéressant d'avoir interviewé des gens de 85 ans et qui disent tous ont les 5 mêmes regrets qui reviennent.
C'est vrai.
Et tu te dis, si j'arrive à lire ça et savoir ces regrets-là, peut-être que moi, je le ferais pas, tu vois. Peut-être que j'aurais pas ces regrets-là à 85 ans.
D'ailleurs, ben, puisqu'on est dans les regrets, on va les nommer parce que les gens le savent. C'est quoi les 5 maudits regrets? C'est 1, j'aurais souhaité avoir le courage de vivre ma vie en m'écoutant et non en fonctionnant de ce que les autres voulaient de moi.
Le nombre de gens, Isabelle, qui font pas ce qu'ils veulent dans la vie.
C'est fou, hein.
Le nombre de gens qui attendent le week-end ou qui attendent les jours avant la retraite.
Ouais. Tu sais, qui calculent en nombre d'années.
Et qui se mettent, tu sais, il me reste tant de dodo avant d'aller faire ça, il me reste, mais si t'es pas bien, tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Fait que le fait de se dire, et puis il y a beaucoup de gens qui ont ce qu'ils veulent dans leur cœur, il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils veulent, mais qui ont peur d'aller le faire. C'est pas tout le monde qui sait ce qu'il veut, ça c'est vrai que c'est une chance de savoir ce que tu veux, mais on est beaucoup à se dire, ouais, j'aimerais ça faire ça, j'aimerais ça jouer, apprendre à jouer du piano, j'aimerais ça aller voyager, j'aimerais ça, mais tu le fais pas pour plein de raisons qui sont toutes bonnes dans ta tête, alors que non, finalement.
Hey, on se fait des checklists.
On se fait des checklists, exactement. Ouais. Mais la vie est tellement, c'est vrai qu'elle passe vite, ça c'est cliché de dire ça, mais c'est un fait.
C'est vrai.
Moi, j'ai 35 ans, c'est passé rapidement. Et je me dis, j'ai envie de vivre ma vie avec mon cœur, tu vois, suivre ce que je veux faire.
Ouais.
Fait que je le fais parce que sinon, je vais avoir des regrets le jour où j'aurai 85
ans. Mais toi, tu travailles beaucoup, tu fais des spectacles, tu t'écris des livres, tu fais des conférences, tu fais plein de choses. Tu as même fait une autre chose que je trouvais chouette.
Je fais du web, je fais des conférences, j'écris des livres, je fais de la publicité, je fais plein de choses.
Tu chantes?
Je chante, j'ai écrit une chanson avec Alex Nevsky pour la fin de mon spectacle.
C'est ça.
Qu'on chante ensemble parce qu'un jour je me suis dit j'ai envie d'écrire une chanson.
T'animes des shows de TV?
J'anime des shows de TV. Tu sais, je vais un peu dans ce que j'ai envie de faire. J'essaye.
Mais c'est tout connexe, remarque tout ça. T'es un artiste finalement.
Ben, tout est connexe. C'est tout un prolongement de ce que je suis finalement.
Le deuxième regret des gens, c'est aussi de dire j'aurais peut-être pas travaillé autant.
Ouais. J'aurais pas travaillé autant.
Ouais.
Mais là, en fait, c'est une question que tu me poses par rapport à moi ou par rapport à en général?
Ben, tu sais, je viens de dire que tu travailles beaucoup. C'est sûr qu'à 35 ans, peut-être qu'on est moins dans le pied sur le frein. Là, tu te dis peut-être aussi, je vais tout prendre quand ça passe.
En fait, ça a l'air que je fais beaucoup de choses, mais je travaille pas beaucoup. Je passe pas 10 heures par jour à travailler. C'est que je fais beaucoup de choses, et ces beaucoup de choses-là me prennent pas beaucoup de temps sur l'année, tu sais.
Ouais.
Écrire ce livre-là, je veux dire la vérité, ça a pas pris tant de temps que ça parce que j'ai pris 3 ans pour vivre les choses, expérimenter, découvrir des choses. Mais une fois que je me suis mis à l'écrire, c'est allé assez rapidement parce que ça faisait 3 ans que j'emmagasinais des choses, tu vois.
Ouais.
C'est un peu comme raconter des vacances.
Ouais.
Tu pars en vacances, tu racontes tes vacances, c'est rapide à raconter tes vacances. Fait que c'est pas si long que ça non plus. Animer une émission de télé, etc., c'est des choses qui sont quand même assez rapides pour moi parce que j'aime les faire.
Mm-hmm.
Fait que je travaille pas tant que ça. Et je fais
autre regret, j'aurais souhaité avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Le quatrième, rester en contact avec mes amis. Et le cinquième regret, écoute, c'est grave, c'est j'aurais aimé me permettre d'être plus heureux.
C'est quelque chose, hein? C'est vrai qu'on vit dans un monde.
Les gens sont malheureux, tu penses?
Ben, je pense qu'on est malheureux.
Tu l'as été malheureux.
Moi, je l'ai.
On a toute une petite part de malheur en nous qu'on traîne. Hein.
Je pense qu'on a toute une part de malheur en nous. Puis tu sais, je trouve que l'humain est rendu édulcoré aujourd'hui. On veut juste donner une bonne image de nous. tu le vois sur Instagram, tu le vois sur Facebook. C'est juste, et puis on a appris ça. On a appris qu'il fallait donner une belle image pour se faire aimer, pour se faire accepter. Moi-même, j'ai passé une bonne partie de ma vie à vouloir me créer une belle image depuis que je suis tout petit, pour me faire aimer, pour me faire accepter, pour me faire voir, pour me sentir vivant, me sentir là. Et je me suis rendu compte que finalement, être humain, c'est réaliser qu'on n'est pas juste des belles personnes. Mmh. On a beaucoup de côtés sombres. On a beaucoup de choses plus laides qui sont en nous et qui sont saines à dire et à exprimer, tu sais. Moi, le premier livre, la liste, c'était ça, c'était un peu ce côté brillant de moi. Mais j'ai réalisé que je ne suis pas juste sympathique, gentil et généreux. Des fois, il m'arrive d'être contrôlant. Des fois, il m'arrive d'être manipulateur. Des fois, il m'arrive d'être en colère. Des fois, il m'arrive d'être triste. Et c'est ça, être humain, finalement. C'est réaliser qu'on n'est pas juste beau. On est beau, mais on est aussi laid. Et dire ça, je pense, je trouve ça sain. Je trouve ça sain, surtout pour un humoriste. Parce qu'on a tous des images de gens joyeux, sympathiques, toujours sur le party. Mais ce n'est pas vrai. Mm. La plupart des êtres humains, des artistes, des êtres humains sont malheureux des fois. Mm. Des jours où tu es heureux. Imagine-toi, c'est pareil, Isabelle. Il y a des jours où tu es heureux, des jours où tu es malheureux.
Clairement.
Il y a des jours où tu as envie de rire et des jours où tu as envie de pleurer, tu vois. Et c'est ça, être humain. Et je trouve que quelqu'un comme moi qui a ce pouvoir-là de communiquer avec les gens, cette parole-là, je trouve ça sain de dire ça.
Mais tu dis aussi que tu as eu des idées suicidaires.
J'ai eu des idées suicidaires il y a à peu près un an. Mm. Et je ne savais pas que j'avais ça. J'ai connecté avec cette souffrance-là profondément ancrée en moi, des choses qui avaient besoin de remonter.
Tu n'en parles pas tellement, là, tu fais juste le nommer.
Oui, je le nomme.
Mais ça a été vraiment sérieux ou c'était plus dans la catégorie cri d'alarme, il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie? Parce que des fois, tu peux avoir des pensées suicidaires, mais qui ne mèneront pas forcément à un passage à l'acte, heureusement.
Ouais.
Mais il y a des gens qui ont vraiment des idées noires qui peuvent être dangereuses là, quand on...
Ouais.
Toi, t'étais où là-dedans?
Moi, j'avais des pensées de me dire si j'avais à le faire, comment je le ferais, tu vois? Je me disais pas je vais le faire.
Quand même, hein?
Mais ouais, j'ai connecté avec une telle souffrance qui était tellement loin en moi que j'avais jamais vraiment vu. Et quand elle remonte, ça a créé ça en moi pendant quelques jours/semaines. Et c'est vraiment pas un bel endroit où aller. Mm. Sauf que j'ai réalisé que c'était un endroit nécessaire. Parce que je suis allé respirer ça, je suis allé pleurer, je suis allé vivre ces choses-là qui sont vraiment pas cool pour en fait finalement qu'elle remonte finalement.
As-tu consulté quelqu'un à ce moment-là?
Ben en fait, moi, ça fait plusieurs années que je vois une psychologue/hypnothérapeute. Et je pense qu'il y a un moment dans la vie où c'est ça, ces choses qui sont inconscientes remontent et elles sont pas cool à vivre, mais une fois que tu les vis, elles partent finalement. C'est se permettre là d'aller pleurer ces choses-là, d'aller ressentir ça, d'aller respirer ça, pour qu'ensuite ça puisse partir, tu vois. Et moi, voilà, c'est parti après quelques semaines. Et d'ailleurs, j'ai compris pourquoi les gens qui veulent se suicider se suicident. Tu sais, j'ai le père de mon meilleur ami qui s'est suicidé au même moment à peu près.
Ouais.
Et souvent, quand on parle de suicide, on dit « Ah, c'est égocentrique, tu laisses ta famille... »
C'est égoïste.
C'est égoïste, pardon, excuse-moi. C'est égoïste, tu laisses ta famille, tu laisses tes amis derrière toi. Est-ce que tu penses à eux? Mais ces gens-là, et je le sais parce que j'ai connecté avec cette souffrance-là, c'est pas que tu penses à pas, c'est que ça fait trop mal de rester. Tu souffres tellement, tu peux plus être là pour les autres. Tu sais, j'ai un ami qui m'a dit une belle phrase, qui m'a dit « L'égoïsme est la clé de l'altruisme ». Et je trouve que c'est une belle phrase très puissante. L'égoïsme est la clé de l'altruisme. Ça veut dire avant de penser aux autres, pour être bien avec les autres, il faut que tu sois bien avec toi. Si t'es pas bien avec toi, tu vas faire semblant d'être bien avec les autres.
Comme le masque dans l'avion.
Comme le masque dans l'avion, c'est exactement. Mets ton masque avant, parce que si tu ne te sauves pas, tu ne pourras pas sauver les gens à côté de toi. C'est un fait. Mm. Fait que sauve-toi toi et ensuite pense à vouloir aider les autres. Mm. Mais si tu penses à sauver les autres avant de te sauver toi, bah, tu vas juste continuer à être mal toute ta vie, tu vois. Fait que j'ai compris que les gens suicidaires souffraient tellement que mettre fin à leur vie semble la seule option. C'est tellement un cercle vicieux de noir que tu te dis, je ne peux plus rien faire.
Il y a beaucoup de gars ici au Québec qui ont ce problème-là, Jérémy.
Il y a beaucoup d'êtres humains qui ont ce problème-là.
Mais beaucoup d'hommes.
Beaucoup d'hommes? Beaucoup ah, ça, je ne savais pas.
Ouais. Le suicide plus... chez les hommes au Québec, c'est un vrai problème.
Ah, je ne savais pas que
c'était
plus...
On n'en parle pas assez, là.
Je ne savais pas que c'était plus masculin que féminin.
Ah oui.
Je viens de l'apprendre.
Ouais.
Et c'est pas cool. C'est pas un bel endroit où aller. Et j'ai beaucoup de compassion, vraiment, parce que maintenant, je l'ai vécu.
Parce qu'il y a beaucoup de douleurs non dites.
Il y a beaucoup de douleurs non dites.
Les gars ont moins de facilité. Ils souffrent plus. Je trouve ça fabuleux, toi, que tu écrives ça. Là. Moi, tous les gars qui nous écoutent, moi, il y a beaucoup de gars qui nous écoutent ici. Là. Puis je trouve ça génial parce que tu peux devenir un modèle aussi de parole, de prise de parole. Il y a beaucoup de gars qui ont de la misère à formuler leurs sentiments.
Ben oui,
c'est un des regrets d'ailleurs, t'as vu, on l'a nommé, le fait de ne pas être capable d'exprimer ce que tu ressens.
Pour plusieurs raisons. Déjà, le côté homme, c'est on nous a appris, je suis un homme, t'as pas mal, t'as pas peur, tu pleures pas, t'es un grand. Tu vois, on a été éduqués comme ça. Et puis surtout, moi personnellement, j'ai grandi...
Les filles, c'est autre chose, t'es cute, t'es belle, t'es fine. Mais tu sais, chacun son poids, finalement.
Chacun son poids.
Ouais.
Et finalement, on se rend compte qu'on vit dans une société où dès que tu veux exprimer vraiment comment tu te sens, les gens n'ont pas envie de savoir.
Ouais.
On dit on a peur. On a peur d'enlever ce masque social-là. Mm. Parce qu'on a tous, quelque part, un masque social. Tu vois, on s'est mis une fausse règle de se dire qu'il faut avoir l'air vraiment tout le temps heureux, tout le temps joyeux. Mais ce n'est pas vrai. C'est que le fait de dire ça, je trouve que c'est soulageant pour ces gens-là. Mmh. Et comme tu dis, ces hommes-là, je ne savais pas qu'il y avait plus d'hommes que de femmes.
Ouais.
Ça, tu me l'apprends, Isabelle. Et je trouve ça beau de moi, en tant qu'homme, de dire, vous savez quoi, c'est pas vrai qu'on est tout le temps fort. Et on n'a pas à être tout le temps fort.
Non.
On n'a pas à être tout le temps souriant, on n'a pas à être tout le temps joyeux, parce qu'on n'est pas ça. Mmh. C'est pas ça, être humain. Et je pense qu'en se disant tout à la gagne, enlevons ce masque-là et soyons plus nous, ben ça nous libère de ce poids-là. Ça nous apprend à justement dire, tu sais quoi, je suis un homme, ben des fois je suis triste, des fois je pleure, des fois j'ai mal, des fois je suis faible. Parce que c'est ça être humain, c'est pas être tout le temps fort.
Mmh. Et Jérémy, il faut qu'on aille à la pause, mais on revient tout de suite avec Jérémy Demy. Je vous l'avais dit, il est vraiment formidable. Moi, sincèrement, je trouve que tu envoies un message vraiment positif. On pourrait les lancer, nos auditeurs, sur « Avez-vous déjà eu des regrets ?»
Ouais.
De la misère à exprimer vos émotions, mais c'est tellement des grandes questions qu'on n'aura jamais assez de temps. Mais si ça vous tente de nous appeler, vous pouvez le faire au 514-790-9850, 1-866-790-9850. Est-ce que ça résonne dans votre tête, ce que Jérémy Demy vient de nous dire? On vous écoute tout de suite après. Puis j'ai vérifié, effectivement, j'ai des chiffres de 2014 sur le suicide parce que Jérémy me posait la question. Tu n'étais pas au courant de ça, suicide chez les hommes au Québec?
J'étais pas au courant de ça du tout. Je savais qu'il y en avait beaucoup, mais jamais à ce point-là.
C'est vraiment, malheureusement, un bad trip de gars. Là. Sur 1125 décès en 2014, puis je pense qu'il y a des chiffres sur 2017, mais je ne les ai pas à la main. Là. En 2014, 1125 personnes s'étaient enlevées la vie, 845 hommes.
Man, c'est hallucinant.
Et au Québec, là, chez les hommes de plus de 45 ans, là, c'est comme pas mal la première cause de mortalité avant les accidents de voiture.
Pour vrai,
on le dit jamais. Là.
Ça me touche énormément.
C'est 3 Québécois par jour.
C'est 3 Québécois par jour. Qui
c'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit.
Man, ouais. C'est énorme.
C'est énorme.
3 par jour.
Ouais.
Je suis
tu sais, ça peut être des gars comme toi. Là, tu sais, c'est...
Ben, en fait, c'est juste des gars comme moi.
C'est ça?
C'est vraiment des gars comme moi.
Comment tu as réussi, toi? Bon, l'écriture a été très salvatrice, d'après ce que je comprends. Fait rire aussi, ça t'aide. En même temps, tu es un immigrant. Puis en plus, être français. Ça, c'est pas évident.
J'ai rien pour moi. Je n'ai rien pour
t'as
moi.
T'as rien pour toi, mon cher Jérémy.
Il faut
vraiment que tu sois fin.
Surtout en humour, être drôle en tant que français, c'est pas la réputation qu'on a.
Surtout que, je pense que c'est dans la liste où tu disais que t'avais fait quelque chose qu'il fallait pas faire.
Ouais.
Hey, je t'ai trouvé game de dire ça.
Bah, tu sais, ça fait partie de mon cheminement. Si j'avoue pas mon cheminement et si je vis pas bien avec ça, qu'est-ce que je fais dans la vie?
Mais t'as tellement raison. Ça m'a donné beaucoup d'empathie automatique pour toi.
Mais bien sûr, on fait tous des erreurs dans la vie.
Ouais. Fait que tu disais, je veux pas revenir là-dessus plus qu'il faut, mais tu disais, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. C'est que je voulais tellement m'adapter ici. Je voulais faire des jokes de Québécois. Fait que finalement, j'ai volé des jokes de Québécois.
En fait, quand j'ai commencé l'humour, on parle de 2005-2006, donc c'était il y a 13 ans. Et je voulais tellement me faire aimer, en fait.
C'est ça.
Tu sais, c'est un peu comme quand t'es à l'école et que t'es petit.
Mais
et qu'au lieu d'apprendre ta leçon, tu copies ton voisin. Tu dis, c'est le chemin le plus court. Moi, je me dis, je vais me faire aimer, je vais faire rire. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 3-4 jokes qui ont déjà été faites, qui ont déjà fait. Fait que je le fais, tu vois. Je vais me faire aimer instinctivement, tu vois, rapidement. Et puis finalement, j'ai appris, non, fais pas ça. Et grâce à ça, c'est génial.
Ouais.
Parce que je me suis dit, plus jamais de ma vie.
Écoute, il y a plein d'humoristes qui l'ont fait, puis qui.
Oui, ça,
qui
c'est vrai.
Encore. Ouais.
Mais grâce à ça, je me suis dit, tu sais quoi, je vais plus jamais le faire et je vais trouver mon style à moi.
Ouais.
Et mon style à moi, c'est devenu celui-là. Ce côté un peu humoriste, j'appelle ça, je sais pas, humaniste un peu, je sais pas comment on peut appeler ça.
Ouais.
Avec ce côté-là, il y aura pas juste de l'humour.
On a un extrait.
Oh.
On est
la pire activité de couple ever pour tous les hommes. Le pédalo. Oh, le pédalo de marde. Et ta blonde, elle est excitée, vas-tu faire du pédalo, mon amour? Il y a des bonnes sensations en pédalo. Toi, t'es à côté. De quoi tu parles? Des bonnes sensations? C'est moi où il y a un canard qui nous dépasse. C'est lui qui confirme. Ouais. Et ceux qui mettent des vestes de sauvetage en pédalo. Oh, prends un petit risque dans ta vie. Tu vas à 0.1 km/h. T'es une bouée à la dérive. Y a plus d'accidents de chaise longue que de pédalo. Mettre une veste quand tu fais du pédalo, c'est comme faire du vélo stationnaire et mettre un casque, ça sert à rien.
Écoute, ça, c'est très bon. Moi, ça me ferait, ça fait 12 fois qu'on l'entend, puis à chaque fois, on est éclaté. Pédalo de marde pour un Français qui a grandi à Dijon.
À Dijon.
Hein?
Au même endroit que tes parents, presque.
Ben presque, écoute, en Bourgogne.
Bourgogne. Ouais. Et tu sais, je me suis vite acclimaté, on dit, acclimaté.
Oui, acclimaté, certain.
Acclimaté.
Ah, tu peux le dire, parce que le climat, il est raide ici.
Il est raide sur un moyen temps, m'a dit une affaire.
Ouais.
Mais
non, mais écoute, tu parles québécois comme ça se peut pas. Là.
J'ai
même
appris.
L'accent et tout, t'as appris,
J'ai appris l'humour ici, j'ai appris pris l'accent ici. Tu sais, la plupart des Français, il y a beaucoup de Français qui viennent au Québec et qui restent entre Français. Ouais. Moi, je pense que j'ai deux amis français et le reste sont québécois. Ma blonde est québécoise, ma vie est québécoise, mon chat est québécois. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment appris l'humour ici. Fait que voilà, je me sens privilégié parce que maintenant, il y a un public et en tant que Français, au départ, c'était pas facile. T'sais. Au départ, on me dit, un Français drôle, c'est comme un Chinois roux, ça n'existe pas. Tu comprends? Et finalement, voilà, j'arrive à avoir un public partout où on va, c'est plein, je suis privilégié. Et maintenant, je peux écrire des livres comme ça, puis j'ai une voix là-dedans. Et tu sais, c'est cool parce que finalement, derrière l'artiste, il y a l'humain avant tout. Ouais. Derrière n'importe quel corps de métier, il y a un humain derrière. Tu sais, on oublie ça. On pense juste au métier, à l'image, à la réussite, mais il y a des humains derrière. Et je pense que le fait de faire des livres comme ça, ça montre l'humain qui est derrière.
Merci beaucoup, Jérémy Demy. C'est un plaisir
c'est
de t'avoir.
C'est trop court, Isabelle. Trop
oui,
court.
Mais je pense que je te book déjà pour dans pas longtemps. Je l'aime beaucoup, ce gars-là. C'est même que ça marche ici à cette émission-là. Je vous aime beaucoup. Je vous retrouve donc demain, 10h. Passez une très, très bonne journée, tout le monde. Bye.